l'écho. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Coucou le Miloud, c'est la poste.
Coucou les Miloudes, vous allez être bien contents d'avoir demandé la livraison le dimanche. À partir de demain matin, Chronopost, la filiale de La Poste, abandonne le repos dominical au moins dans les grandes villes. Ça n'est qu'une facette, de la mutation du service public. La Poste fait aussi passer des examens de français. La Poste fait passer le code. La Poste livre des médicaments au bureau. La Poste ramasse vos vieux papiers. Et La Poste rend aussi visite à votre vieux papa.
PTT, les hommes qui relient les hommes.
La différence, c'est que quand il y avait du courrier, la discussion avec le vieux papa, c'était gratuit, c'était compris dans le prix du timbre. Mais moins il y a de lettres, moins il y a de bureaux de poste, moins il y a de facteurs, plus le travail s'intensifie, plus le timbre augmente. Imaginez que dans un mois et demi, le timbre rouge coûtera presque 1 euro. Qui sait dire quand La Poste se sera retrouvée un équilibre? Rien n'est simple, tout se complique. Regardez même le client et concurrent Amazon qui ouvre ses propres centres de livraison. Il faut compenser, il faut s'adapter et ça discute en ce moment même entre l'État et La Poste sur les missions et les moyens. N'imaginons pas que la métamorphose façon Pixel va s'arrêter. Je lis que jusqu'à 2022, La Poste, elle devra faire mieux avec moi.
Il n'y a pas écrit La Poste là.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Bienvenue dans le Mag Écho, le débrief de la semaine sur la planète Écho. Ça commence maintenant et c'est jusqu'à 10h. À la réalisation, Sonia Leglen, Jérémy Younes est attaché de production et ce matin, c'est Vincent Godard qui nous accompagne à la technique. Au menu de ce samedi, comment sauver la planète? Alerte de 15 000 scientifiques. Que disent les économistes? Ce sera le débat avec nos super-héros habituels. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Voilà.
Est-ce que vous avez des réponses de sauveurs? On aimerait bien le savoir. Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
De BFM Business. On se retrouve dans quelques secondes pour le débat. L'invité du Mag Écho, c'est la présidente du premier syndicat agricole de France, Christiane Lambert. C'est une éleveuse à la tête de la FNSEA. Avec elle, on va parler bien sûr environnement, glyphosate, alimentation et du beurre aussi. Interview vers 9h45. L'économie hors du studio, ce sera avec les contrôleurs de Pôle emploi. Emmanuel Macron veut multiplier leur nombre par 5, renforcer le contrôle des chômeurs. Donc, mais pour quel résultat? Dans ce mag, le reportage de Louis-Valentin Lopez. Et puis juste avant 10h, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors ce samedi, pas de questions d'auditeurs, mais vous avez exploité les multiples trésors de votre boîte mail.
Et oui, ce matin, je vais vous parler communication des entreprises et des communiqués de presse.
Alléchant. À tout à l'heure, tout de suite, le débat, la semaine de la COP23, le deuxième avertissement des scientifiques. Il va falloir changer radicalement de mode de vie.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
La communauté scientifique nous envoie des messages d'alerte. Le seuil de l'irréversible a été franchi.
Emmanuel Macron, lors de la COP23.
Les pays riches ont imposé au monde l'heure universelle. Aujourd'hui, il leur est interdit d'imposer au monde leur propre tragédie.
Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent l'avertissement à l'humanité sur l'état de la planète. Il sera bientôt trop tard, disent les chercheurs.
Deuxième pollueur de la planète, les États-Unis.
Oui. Mais qu'est-ce qu'ils polluent ?
En faisant du pétrole, en faisant du gaz de schiste, en ayant des voitures surdimensionnées, en ayant des frigidaires qui sont trois fois plus gros que les nôtres.
Pascal Canfin, directeur général de WWF France.
Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait plus de 5 planètes.
En 25 ans, la population mondiale a augmenté de 35%, une pression supplémentaire sur les ressources naturelles.
Il y a 1 milliard d'humains qui habitent dans les pays développés.
Gilles Pison, démographe.
C'est ce milliard-là qui, à la limite, pourrait être trop nombreux.
C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes proclamations.
Pierre Rabhi, essayiste.
Mais vous savez, un être humain dans le monde du développement, il consomme 4 à 5 fois ce qui lui est nécessaire. C'est le superflu.
Dire en général la population de la Terre augmente, c'est vrai, mais ça masque le fait qu'elle augmente surtout dans quelques petites régions.
Hervé Lebras, démographe.
Je pense que dans un certain nombre de pays, et c'est le cas de la Chine, on va au contraire se plaindre que la population diminue.
Les délégués de la 23e conférence climat viennent de se séparer au petit matin. À Beaune, pas de progrès, énorme, notable. Et donc cette semaine, on a eu le signal d'alarme de 15 000 scientifiques. Le précédent avertissement, c'était il y a 25 ans au sommet de Rio. Emmanuel Lechypre, je me tourne vers vous. Que retenez-vous de l'avertissement des 15 000 à l'humanité ?
Bah, cet avertissement, il m'a mis assez mal à l'aise, en fait. Alors, si le but, c'est de faire de la com, bon, c'est assez réussi parce que c'est spectaculaire de dire qu'on est trop nombreux sur Terre. Après, moi, je pense que prendre le problème par ce bout-là, c'est le prendre par le plus mauvais, en fait, des bouts. D'abord, ce problème démographique. Alors, effectivement, la situation dont on hérite est problématique. Plus 35% d'humains sur Terre depuis 25 ans. D'accord. Mais quand on regarde aujourd'hui quelles sont les tendances lourdes, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il y a beaucoup de pays qui sont très peuplés, mais dans ces pays les plus peuplé, la natalité est faible. Hein, dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, vous êtes à peu près à 2 enfants par femme, pas plus. Et comme le disait Hervé Lebras dans les sons qu'on a entendus, il y a que 2 régions dans lesquelles on a aujourd'hui dans le monde des taux de natalité qui sont très élevés. C'est l'Afrique subsaharienne et c'est effectivement la bande Pakistan, Inde, etc.
Donc vous
Mais
trouvez
même
qu'il...
dans tout le reste du monde, il y a à peu près moins de 2 enfants par femme. Donc la tendance à la baisse au ralentissement de la dynamique démographique, elle est déjà enclenchée. Et pourquoi je dis que c'est la pire façon d'aborder les problèmes ? D'abord parce que le problème, il est surtout qualitatif. C'est plus qu'est-ce qu'on fait de nos habitudes. Et ça... ça n'est pas résolu par le problème qualitatif, quantitatif. Et puis, toute cette problématique, genre, on va manquer de ressources, on va avoir faim, etc. Mais n'oubliez jamais que la faim n'est pas un problème de ressources disponibles sur le plan alimentaire.
C'est
faim,
un problème d'allocation,
c'est un problème
économique.
C'est un problème de gestion, c'est un problème politique. Voilà.
Alors, Christian Chavagneux, vous l'avez lu également, cet oui. appel des 15 000. Que retenez-vous, vous, de votre...
Bon, je reviendrai sur la démographie après, moi. Mais sur le message général, c'est plus attention, on va dans le mur. C'est on est dans le mur. Hein. La perspective de réchauffement de 2 degrés de la planète par rapport à la période industrielle paraît d'ores et déjà perdu. Et aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est que les États, ils ont fixé ni un cap d'émission des gaz à effet de serre qui réchauffe la planète, ni même un horizon de maîtrise. C'est pour ça qu'ils poussent un cri d'alerte.
Il sera bientôt trop tard.
Mais on est quasi à l'objectif de 2 degrés qui est fixé par les scientifiques, il semble perdu aujourd'hui. Ils sont perdus. Donc, est-ce qu'on peut essayer de retrouver une probabilité de s'y ramener? Et sur les 30 ans à venir, l'humanité va payer de plus en plus cher les conséquences dans les décennies qui viennent. Il faut agir concrètement et rapidement. Du coup, Le Monde, et le journal Le Monde qui a publié cet appel des scientifiques, à côté, ils ont mis un ensemble de petits graphes qui répond au bilan des scientifiques. Quand vous regardez ces 2 pages, vous êtes complètement affolé. La couche d'ozone, on l'abîme plus, mais elle reste détériorée. Les réserves d'eau douce, qu'est-ce qu'on va boire demain en chute libre? Les réserves halieutiques, pareil, de moins en moins de poissons. Les zones mortes maritimes, c'est-à-dire les endroits où il n'y a plus d'oxygène tellement on a mis de cochonneries dans la mer, en forte hausse, la déforestation accélérée, la biodiversité en chute libre. On est en train vraiment de tuer les différentes espèces vivantes sur la planète et l'objectif de dépassement, les 2 degrés de température complètement dépassés. Attention, c'est un vrai cri d'alerte. Pour nous, j'espère que dans une trentaine d'années, on sera encore là. Pour nos enfants, c'est sûr.
Il faut repenser radicalement nos modes de vie. C'est aussi dans ce cri d'alerte, Christian Chavagneux. C'est ce que voilà, ça c'était pour le panorama. Hein, donc ils nous disent, on va dans le mur, on y est presque. Est-ce que, comme Emmanuel Lechypre, vous retenez l'idée que la solution, c'est de remédier à cette pression démographique?
Moi, j'ai vraiment été. Ça m'a fait un peu peur, je dois dire. Hein. Quand je suis arrivé au moment de ce débat, enfin de texte des
Emmanuel aussi, je le vois.
Et je cite hein, la croissance démographique rapide et continue est l'un des principaux facteurs des menaces environnementales. Il faut donc, je recite, limiter adéquatement la croissance de la population. Honnêtement, ça me fait un peu peur.
C'est un peu autoritaire.
C'est un peu autoritaire. C'est le grand retour de Malthus. Hein. Vous savez, il publie en 1798 son essai sur le principe de la population dans lequel il parlait pas d'environnement, il parlait simplement de nourriture. Il disait, la progression de la population va beaucoup plus vite que la progression de la nourriture. Donc demain, il va y avoir des famines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la fécondité. Alors, le père Malthus, évidemment, lui disait, il faut reculer l'âge du mariage. Faut avoir recours à l'abstinence sexuelle. Il faut arrêter d'aider les pauvres. Parce que plus vous aidez les pauvres, plus se reproduisent, ma pauvre dame, donc il faut arrêter de les reproduire. Heureusement...
Il y a quand même un peu de ça, Christian, dans cet appel.
C'est ce qui m'a fait un peu peur. Heureusement, quand même, la réalité n'a pas été malthusienne. On a réussi ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire avoir beaucoup moins de naissances. Pourquoi? Parce qu'avec les progrès qu'on a fait sur la médecine et tout ça, on a réduit le nombre de morts. Et en réduisant le nombre de morts, ça a incité les femmes à réduire le nombre de naissances de plus en plus éduquées. Elles vont à l'école, tout ça. Bon, donc, du coup, pas si simple. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me gêne dans le rapport des scientifiques, c'est qu'il résonne en termes absolus. Tant de milliards de population aujourd'hui,
7 milliards, 600 millions d'êtres humains sur la planète.
On sera 9 milliards demain, donc juste en termes absolus, alors qu'il faut raisonner en termes relatifs au développement économique. Le constat, il est clair, il est fait par Yael Giraud, l'économiste en chef de l'AFD,
l'Association française de développement.
Et c'est facile à retenir, hein, au niveau mondial, les 10% les plus riches sont à l'origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, la moitié des plus pauvres sont à l'origine de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas réduire le nombre de personnes de manière absolue, il faut réduire le train de vie des riches. C'est ça que les scientifiques auraient dû nous dire.
Emmanuel Le Chypre.
C'est ça qui est gênant dans cet appel, finalement, à une démographie beaucoup plus maîtrisée, c'est que quelque part, on dit quand même un petit peu que c'est la faute des pauvres, alors que c'est absolument pas le cas.
Ah non, c'est la faute des riches.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'appel qui dit qu'il faut réduire la démographie, quelque part,
absolument,
c'est dire les pays qui font trop d'enfants, va falloir qu'ils se calment un peu, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même une façon aussi de reporter considérablement le fardeau de nos errements sur, justement, les générations futures ou sur ceux qui vont venir. Parce que ce qui va se passer, c'est que la transition démographique, quand elle va se faire dans ces pays-là, mécaniquement, elle va réduire la natalité et la démographie. Le problème, c'est effectivement cette génération aujourd'hui de gens qui sont très pauvres et dont il va bien falloir gérer finalement les difficultés. Donc oui, c'est un problème, mais je trouve que cet appel sur la démographie, un, il ne cible pas les bons problèmes, et deux, il arrive surtout beaucoup trop tard, puisqu'on voit que le ralentissement démographique, il est déjà enclenché. Hein. Si vous prenez les hypothèses des Nations Unies, si vous restez à 2,1 enfants par femme, on culmine à peu près en population mondiale à 2100. Si vous tombez à 1,6, vous avez déjà un ralentissement, une diminution de la population mondiale dès 2075. Et ce sont des forces d'inertie tellement longues que de toute façon, je ne comprends pas bien le sens de cette proposition.
Je crois que vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée forte là qu'il faudrait arrêter de faire des enfants ou faire beaucoup moins d'enfants. Finalement, c'est déjà un peu dépassé, un peu derrière nous. Christian Chavagneux, il y a autre chose, il y a d'autres pistes quand même pour sauver la planète.
Il y a d'autres pistes. On sait aujourd'hui que si on veut accroître la probabilité de rester à plus de degrés de température au niveau mondial par rapport à la révolution industrielle, il faut émettre à peu près moins de 1000 gigatonnes de CO2. Au rythme actuel, c'est-à-dire qu'il nous reste 30 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répartir ce budget carbone sur les 30 ans qui viennent? Est-ce qu'on doit le répartir entre États ou entre acteurs privés? Entre États, sur quels critères demande Yael Giraud? Est-ce que c'est le PIB? C'est le PIB par habitant? C'est les émissions passées? C'est les émissions actuelles? Si on prend plusieurs critères, comment on les pondère, etc. C'est là-dessus, c'est ça le fond du problème.
Ce sont des questions d'économistes.
Ce sont des questions complètement d'économistes sur lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Du coup, les grands États ont dit, puisque nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va répartir ce quota carbone qui nous reste à dépenser pour les 30 années, entre acteurs privés. Donc, on va faire un marché des droits à polluer. Je pollue moins, je vends mon droit à polluer à ceux qui polluent plus. Et puis, on fait un marché avec le prix du carbone qui va pas cesser de monter, le prix du droit à polluer qui va monter. À un moment donné, ceux qui polluent vont dire « c'est trop cher, il faut que je dépollue ». Et donc, on a la solution magiquement par le marché. Malheureusement, ça marche pas, parce que d'abord, il faut que les États se fixent un objectif de réduction des gaz et des émissions à effet de serre pour après distribuer le nombre adéquat de droits à polluer. Or, je reviens à mon point précédent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après, il faudrait un contrôle mondial. Une entreprise qui dit, j'avais le droit à une tonne, j'en ai émis que la moitié, je vends le reste. Mais il faut bien contrôler qu'elle a bien émis que la moitié, qu'elle a le droit de vendre le reste. En fait, c'est une usine à gaz de contrôle étatique, national, régional et mondial, qui est absolument faramineux. Puis ensuite, il faudrait un prix adéquat de ce droit à polluer pour désinciter les pollueurs. Aujourd'hui, on n'a pas ce prix adéquat.
On est toujours dans le chantier du prix carbone, on n'y arrive pas. Emmanuel Le Chypre, il y a aussi l'idée, donc il y a cette idée de prix carbone, et il y a aussi l'idée qu'il faut changer de mode de vie,
ouais,
la consommation.
Totalement, il y a plusieurs pistes. Il y a ce qui concerne le mode de vie sur ce qu'on consomme. Alors, on sait déjà qu'il va falloir dépenser beaucoup moins d'énergie, mais on voit bien que dans tous les scénarios de transition énergétique, même les scénarios qui vont vers le plus d'énergie renouvelable, c'est impossible sans modification profonde des modes de vie. Donc, on voit bien que sur la transition, par exemple, de sources d'énergie, on aura beaucoup de mal à se passer du nucléaire. Moi, je pense que les débats, il faut les gérer par priorité. C'est-à-dire que si on considère que la priorité, c'est de décarboner, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui, et on y reviendra peut-être, de décarboner sans le nucléaire. Mais si vous prenez tous les scénarios, par exemple, sur les changements d'habitude de consommation, prenez, par exemple, même le scénario qui est fait par Mégawatt en France sur qu'est-ce qui qu'il faudrait. Bon, on sait qu'il faudrait à peu près, on peut vivre de la même façon à peu près en consommant 20% d'énergie en moins, grâce aux économies d'énergie. Mais dans tous les scénarios pour tenir les objectifs, il faut réduire de 50% au moins notre consommation d'énergie. Et ça, ça veut dire des logements plus petits, ça veut dire des vrais changements d'habitude sur ce qu'on achète, ce qu'on mange, ce qu'on,
moins de viande,
on s'habille, etc.
Vous parliez du nucléaire à l'instant. Je voudrais qu'on regarde le cas spécifique de la France, puisque le gouvernement a annoncé qu'il ne pourra pas tenir son engagement sur la part du nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2025. Ça devait baisser de 75 à 50%. Eh bien, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, renonce à s'acharner sur la date.
Il sera difficile de tenir ce calendrier 2025, sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile, alors que nous avons pris la décision justement, et nous la maintenons, de fermer d'ici 2022 des centrales à charbon pour lutter contre le changement climatique. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon. Et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques.
Christian Chavagneux, je voudrais votre avis éclairé. Est-ce que c'est...
C'est le cas de dire. Hein.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la raison qui parle quand on annonce à 2025 pour baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique? Ou est-ce que c'est de l'intox, comme on peut aussi le voir sur Internet? Il y a des gens qui sont extrêmement indignés.
Il faut rappeler d'abord une spécificité française. En 2016, le nucléaire, c'est 72,3% de notre production d'électricité. Le deuxième pays au monde qui utilise le nucléaire, c'est la Slovaquie avec 54%. Donc on est vraiment hyper dépendant du nucléaire. Revenir à 50% d'énergie nucléaire dans notre mix de production électrique, c'est redevenir un pays à peu près normal, dans le haut de la fourchette, mais normal par rapport aux autres. Alors, Hulot, il abandonne la date de 2025. Bon, au moment où l'engagement a été pris, sous Hollande, on n'a rien fait pour avancer. Donc, il démarre de zéro. 2025, c'est demain matin. Hein. C'est demain matin. 8 ans pour réduire la part du nucléaire d'un côté, plus réduire la part du charbon, annuler le charbon à 2022, le gouvernement s'est engagé. Plus pas de réouverture de centrales thermiques, le gouvernement s'est engagé à ça. Plus gérer socialement la baisse du nucléaire, on ne peut pas tenir les quatre ensemble. Donc il a dit, si je ne peux pas tenir les quatre ensemble, j'abandonne la date de 2025.
Il se donne 5-10 ans de plus, ou 5-10 ans de plus.
Au moins 10 ans de plus, je pense, de 2035. Il a déçu, pourquoi? Parce qu'en débranchant la date de 2025, il n'a pas dit, ce sera forcément 2035 et on va mettre le paquet pour essayer de réduire la part du nucléaire. Il a très mal géré la com, et dans les gens qui sont autour de lui, quand on parle avec eux, il est d'accord, je crois, Nicolas Hulot, il a loupé la séquence politique, on va dire. Mais sur le fond du raisonnement économique, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Tout ce qui se dit dans les couloirs, c'est que le Premier ministre et le Président de la République ont dit à Hulot, si tu n'annonces pas un report, on achète deux EPR. Et donc Hulot, il a dealé, je reporte la date, mais il n'y aura pas d'EPR supplémentaire en France, donc plus de développement de capacité nucléaire. EDF fait une pression d'enfer. EDF n'a plus de clients aujourd'hui. On entend tous les grands pays qui achètent des Airbus, mais qui aujourd'hui vous dit qu'il va acheter des centrales nucléaires? Plus personne. Donc EDF fait un lobby d'enfer pour avoir ça. On a reculé la date, si c'est vraiment pour s'engager. Et jeudi soir, si vous avez regardé la conférence de presse de Nicolas Hulot après la COP23, il a dit « Nous allons fermer des réacteurs ». Donc allez, je lui donne le crédit, il va s'engager.
Emmanuel Le Chip, je vous ai vu acquiescer.
Oui, parce que cette espèce de d'hystérie autour du nucléaire en France, il faut quand même la replacer à sa juste mesure. Christian dit, le nucléaire, c'est 75% de notre électricité. Oui, mais sauf que l'électricité, c'est moins du quart de toute l'énergie qu'on consomme en France. Ça veut dire que, admettons qu'on résolve ce problème du nucléaire et qu'on se débarrasse du nucléaire, on n'aura résolu qu'un quart de nos problèmes énergétiques.
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, mais voyons par rapport à tous les autres enjeux qui sont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Et c'est peut-être appelé à augmenter quand même, Emmanuel, si on met en place les voitures électriques,
oui,
tout ça.
Parce que forcément, après, de toute façon, moi je pense que tous les scénarios qu'on a sur les énergies renouvelables vont décevoir, d'abord parce que on part de très bas, parce que ces énergies ont beaucoup plus d'inconvénients que ce qu'on veut bien nous dire.
Non, ça c'est pas vrai.
Mais si, bien sûr que si. Leur bilan énergétique est bien plus mauvais que ce qu'on dit. En termes de leur impact sur l'environnement est bien plus mauvais que ce qu'on dit. Le photovoltaïque, par exemple, il a un impact sur l'environnement qui est quasiment nul compte tenu de ce qu'il faut pour le produire. Il faut bien voir que ce sont des énergies qui produisent peu. Parce que la grande grande différence, si vous voulez, entre les énergies carbonées, le nucléaire, et ces énergies renouvelables. C'est que le fuel, le pétrole, le charbon, le nucléaire, quand vous avez besoin, vous appuyez sur le bouton, ce qui n'est absolument pas le cas pour le photovoltaïque et pour le solaire. Et ça génère des coûts qui sont absolument considérables. Donc, allons-y tranquillement, mais on n'y arrivera pas. Et donc, la vraie priorité, moi, je pense que c'est de se focaliser sur le reste, c'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui est transport et tout ce qui est logement, où là, effectivement, il y a des efforts absolument considérables à faire en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, en matière d'efficacité énergétique des voitures. Et là, pour le coup, vous avez une dynamique économique qui peut être intéressante, parce que là, ça crée des emplois, etc. Mais ce débat sur le nucléaire, Christian a raison, il est effectivement pollué par l'EPR, qui est quand même le délire le plus dingue de tous les ingénieurs d'EDF. Et on l'a fait pourquoi l'EPR? Ouais. Tout simplement parce qu'il y avait une génération d'ingénieurs chez EDF qui n'avaient pas construit de centrale, alors que son coût est beaucoup plus élevé. C'est cher, ça produit de l'électricité trop coûteuse, et manque de bol, c'est pas une bonne idée du tout, cette EPR. Donc tant mieux si on l'abandonne.
On referme là le dossier climat qui, de toute façon, nous rattrapera. Pendant ce temps, comment tourne la planète finance? Je change de dossier. Vous allez voir, ça change de cap aux États-Unis. The Consumer Financial Protection Bureau. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Grégory, vous nous parlez ce matin d'un homme inconnu en France, mais un homme symbolique. Son nom, c'est Richard Cordray. C'est le patron de l'organisme chargé de protéger les consommateurs américains des dérives de la finance, le CFPB, le bureau créé par Obama après le scandale des subprimes. Eh bien, autre président, autre mœur, Richard Cordray, il vient de taper sa démission.
Oui, Cordray, nommé par Obama, donc il y a 6 ans, rend son tablier après avoir, dit-il, permis aux Américains d'être mieux protégés des dérives du système bancaire. On se souvient que c'est cette administration, le CFPB par exemple, qui avait fait condamner la Wells Fargo à une très grosse amende, 100 millions de dollars, je crois, pour des malversations. Or donc, Richard Cordray s'en va, sans doute parce que le Congrès républicain lui met aujourd'hui des bâtons dans les roues. Le CFPB, par exemple, voulait donner la possibilité aux consommateurs américains de poursuivre les banques en non collectif. Mais le Congrès a fait capoter ce projet il y a quelques semaines. Il faut dire aussi, Alexandra, que la majorité républicaine ne porte pas dans son cœur cette institution, qu'elle accuse d'à peu près tous les maux, surrégulation, bureaucratie excessive. Bref, la Maison-Blanche a même parlé dans un communiqué publié fin octobre de la politique inefficace du CFPB. Et tout ça cumulé entraîne donc le départ de Richard Cordray aujourd'hui.
Grégory, est-ce que plus globalement, on peut parler d'une reprise en main par Trump du système de régulation de la finance ?
Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, Trump a été très clair dès le début de son mandat en critiquant la loi de 2010. Vous savez, la loi Dodd-Frank qui avait été votée pour justement mieux réguler les marchés. On va couper là-dedans, avait prévenu le président, parce que j'ai tellement d'amis qui n'arrivent même plus à emprunter de l'argent, donc la volonté de moins de régulation est bien là. Vous savez qu'au début de l'automne, Donald Trump n'a pas reconduit Janet Yellen à la tête de la Fed, qu'il a nommé à sa place Jérôme Powell, un avocat républicain, ancien banquier d'affaires. Dans les prochains mois ou prochaines semaines, la Maison-Blanche va aussi nommer 3 nouveaux gouverneurs au conseil d'administration de la Banque centrale. Bref, et après tout, c'est assez logique, Donald Trump place ses hommes à la tête de ces différentes institutions chargées de la régulation bancaire, et avec un changement de ton vis-à-vis des banques, changement de ton, c'est ce que le secrétaire au Trésor, Mnuchin, avait promis aux banquiers au moment de sa prise de fonction, début janvier.
Grégory Phillips, avec nous depuis Washington. Merci à vous, merci aux débatteurs. Rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine. À venir d'ici 10h, l'invité de ce samedi, c'est Christiane Lambert, la patronne des agriculteurs de la FNSEA. Mais avant ce rendez-vous, on quitte le studio 521, direction les Pays de la Loire. Savez-vous comment se passe aujourd'hui le contrôle des chômeurs ?
Oui, bonjour Madame Christophe, du service du contrôle de la recherche d'emploi. Voilà, je me permets de vous appeler parce que j'ai bien reçu le questionnaire que vous m'avez retourné et je vous en remercie. Là, ce que vous m'avez donné, c'est un retour employeur. C'est très bien, hein, c'est parfait, mais malheureusement, on sait bien que les retours employeurs sont pas forcément très nombreux. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est effectivement de la liste des entreprises que vous avez démarchées et éventuellement, vous les avez démarchées de quelle manière, madame ? Très bien. Et avez-vous gardé des traces justement de ces lettres et de ces CV ? Oui, c'est à la vue de ces pièces qu'on va pouvoir évidemment statuer sur le dossier dans le cadre de votre contrôle. Eh bien, je vous remercie, madame. Bonne journée. Au revoir.
Christophe, le contrôleur de Pôle emploi, fait partie des 200 agents
qui sont chargés de vérifier si, oui ou non, les chômeurs recherchent activement du travail. Plus de 5,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Combien de profiteurs? Bien sûr, il y a cette question. Eh bien, les chiffres sont sortis il y a quelques jours, dévoilés par Les Échos. 270 000 contrôles depuis 2015, c'est l'année de la généralisation. 86% des personnes qui satisfont à leur devoir de recherche. Donc, en clair, pas de flux massif vers les Bahamas. Cependant, Emmanuel Macron veut multiplier par 5 le nombre des contrôleurs. Dans quel but? Est-ce qu'il veut remotiver? Est-ce qu'il veut faire des économies pour voir des offres de travail qui ne trouvent pas de candidats aujourd'hui? Nous retournons au Pôle emploi de Nantes avec notre reporter Louis-Valentin Lopez, toujours à la recherche de réponses précises.
Je vous dérange pas, ça va?
Du tout, non.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors moi c'est Karine, donc je suis conseillère au contrôle recherche emploi depuis un an et demi maintenant.
Est-ce que vous pouvez me décrire là ce qu'on voit sur cet écran d'ordinateur? Je vois marqué point de vigilance, qu'est-ce que c'est?
C'est un contrôle qui est en cours, donc effectivement je suis sur sa fiche de synthèse puisque j'ai des actions à mener sur...
C'est une demande de l'agence?
Ça c'est une demande d'agence, oui. On va démarrer ce qu'on appelle un contrôle, c'est-à-dire remplir une fiche de synthèse avec des éléments, savoir s'il y a des périodes d'activité travaillées ou pas, quand date des dernières dates de fin de contrat, s'il y a eu des prestations qui ont été mises en place, lire aussi la teneur des entretiens qui ont lieu avec le conseiller.
Et si on approfondit et qu'on se rend compte que ce point de vigilance est avéré, il y a contrôle?
Non, pas forcément. En fait, les contrôles sont aléatoires ou issus de requêtes. Hein, donc, exemple, quelqu'un qui est rentré en formation et qui n'a pas trouvé en fait d'emploi dans les 6 mois. Ça peut être aussi des demandes d'agence. Là, par contre, les demandes d'agence, c'est essentiellement des dossiers qui sont quand même connus des conseillers.
Pourquoi ils vous l'ont communiqué, ce dossier, l'agence? Pourtant, il a l'air pas mal, comme ça.
Comme ça, il a l'air pas mal, effectivement, mais c'est quelqu'un qui est en fait souhaite créer une auto-entreprise et en fait, c'est une activité qui aurait dû démarrer assez tôt, c'est-à-dire fin de premier trimestre 2017. Donc, tous les voyants étaient au vert, donc tout a été mis en œuvre pour que l'activité démarre. Et à ce jour, ce n'est toujours pas fait.
Je suis Sophie, je suis donc la responsable de l'équipe du contrôle de la recherche d'emploi des Pays de la Loire.
Quand survient l'éventuelle décision de radiation?
Eh bien, si nous n'avons rien, pas le questionnaire, qu'on n'a pas réussi à les joindre malgré les 3 tentatives d'appel, malgré l'invitation téléphonique, qu'on n'a rien, ou très 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 peu. Dans ces cas-là, il peut en effet survenir la radiation. Il y a d'abord un avertissement avant radiation. En fait, il a un avertissement qui stipule qu'il a 10 jours avant la radiation. Et on a des gens qui nous envoient des pièces dans ces délais-là. Et si on n'a toujours rien, là, en effet, il peut y avoir une radiation de 15 jours.
Est-ce que ça incite les gens à retourner vers l'emploi?
Est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que c'est pas le contrôle? C'est autre chose dans l'analyse. En tous les cas, nous, dans ce que nous faisons, on a vraiment des personnes, voilà, qui se remobilisent, qui se rend compte peut-être qu'il n'y a pas eu assez de démarches, c'était peut-être pas très pertinent, et que du coup, le fait d'avoir un relais avec le conseiller référent et de peut-être retravailler le projet professionnel peut les relancer vers autre chose.
Combien de dossiers sont traités ici par jour? Vous en recevez combien? Vous en traitez combien?
Alors, je suis désolée, mais je ne commenterai aucun chiffre aujourd'hui.
D'un point de vue personnel, est-ce que ce n'est pas un travail un peu compliqué parfois à mener?
Il y a une vraie dimension dans ce travail-là, et on travaille vraiment dans la bienveillance. En dehors du protocole, on sait très bien qu'il y a des hommes et des femmes. Pour certains, on a déjà été demandeur d'emploi aussi. Hein, parce qu'on a une vie aussi avant Pôle emploi. Donc on sait ce que c'est. Hein.
Pôle emploi à votre service. Ce numéro n'est pas surtaxé.
Alors sur les dossiers traités, 14% de radiation, mais pas de grosses économies pour Pôle emploi dans les faits. Sur les radiés, seules 4 personnes sur 10 touchaient l'assurance chômage. 4 autres ne recevaient plus rien et 2 relevaient du régime de solidarité, comme cette demandeuse d'emploi, furieuse. Son contrôle, elle l'a vécu comme une injustice.
Ça va faire 6 ans que je suis sans emploi au RSA. 470 euros, 46 ans. Je souhaiterais travailler dans l'animation culturelle ou sociale. J'ai rencontré ma conseillère emploi, on avait un rendez-vous, et elle voit sur mon dossier informatique qu'il y a un contrôle de la recherche d'emploi qui va avoir lieu. Donc je suis un peu étonnée, moi je n'ai rien reçu, ni courrier, ni mail. Voilà. Et donc je reçois quelques temps après un dossier de 7 pages que je suis censée remplir. Ça m'a pas été très agréable parce que j'étais en démarche de recherche de formation depuis des années, que j'ai des blocages financiers de la part de Pôle emploi depuis des années aussi, Et là, on me dit, il faut que vous répondiez à une quinzaine de questions. On épluche toute ma vie. Quelles sont vos démarches? Est-ce que vous répondez à des offres d'emploi? Enfin, tout est épluché à tous les niveaux. Est-ce que vous avez des difficultés personnelles? Bon, ça, on sent que c'est pas très bienveillant non plus, forcément. J'étais assez en colère. D'ailleurs, j'ai appelé la personne qui était désignée comme contrôleuse de ma recherche d'emploi. Et là, la personne me répond, ah ben non, moi, je peux pas accéder à votre dossier. Alors qu'elle avait inscrit ce contrôle de la recherche d'emploi sur mon dossier informatique. Quelque chose de, là, on est là, nous, pour faire un contrôle et on va pas aller regarder ce que vous avez fait, puisque, comme je vous dis, toutes les recherches d'emploi sont inscrites sur le dossier informatique. Mais nous, non, on va pas aller regarder ce que vous avez fait. On veut que vous nous détailliez toutes vos recherches d'emploi. Le problème, c'est que moi, j'avais pas noté mes recherches d'emploi, puisque je savais qu'elles avaient passé par mon compte personnel informatique. Donc, je n'ai pas noté toutes mes recherches d'emploi. Donc, je me trouvais devant une impossibilité aussi.
5 fois plus de contrôleurs, c'est en fait une juste compensation pour Emmanuel Macron. Le président compte, on le rappelle, étendre l'assurance chômage aux indépendants, aux démissionnaires. Mais ce contrôle, est-ce qu'il est vraiment efficace? Eh bien, pour y répondre, je suis d'abord allé voir Jean-Charles Stéger du SNUPOL Emploi.
Il y a aujourd'hui en France à peu près 450 000 offres disponibles. Il y a 7 millions de personnes qui sont ou sans emploi ou en emploi extrêmement précaire. Donc tout cela, c'est des sirènes qui veulent pas regarder la réalité des prix. La réalité des prix, c'est que vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne recrutent pas ou quand elles recrutent, ne recrutent pas de chômeurs. 30% des emplois en 2016 ont été pourvus par des gens qui avaient déjà un emploi. Au bout du bout, quand vous excluez les gens de l'assurance chômage ou des revenus de remplacement de solidarité, eh bien, vous retrouvez des gens qui vont creuser l'exclusion sociale, qui vont connaître souvent des expulsions, souvent des difficultés de soins, etc. Et donc, ça a beaucoup plus de coûts quand il faut rattraper après ces gens-là.
Je m'appelle Jean-Marie Pillon, je suis sociologue et je travaille à l'Université Paris-Dauphine. L'expérience que j'en ai, moi, c'est qu'en fait, la grande majorité des radiations, donc c'est-à-dire des gens qui sont évincés de l'assurance chômage pour cause de non-conformité, c'est surtout des gens qui sont absents au rendez-vous. Et donc, si le but, c'était seulement de faire des économies, il suffirait en fait de convoquer quasiment tous les jours ou toutes les 2 semaines les demandeurs d'emploi et on ferait beaucoup d'économies. Donc je pense que c'est pas seulement les économies l'enjeu. Je pense qu'il y a un truc qui est moral derrière, qui est de dire les demandeurs d'emploi doivent se conformer à une certaine image stéréotypée ou idéalisée du chômeur dynamique, du chômeur qui fait des démarches, même si ces démarches sont couronnées d'échecs. Le seul intérêt en fait de la pression exercée sur les chômeurs, et qui est un intérêt important, c'est de rendre désirable, de rendre pourvoyable les emplois qui sont de plus mauvaise qualité. C'est-à-dire que les emplois qui se situent en dessous du SMIC. Eh bien, ces emplois-là deviennent pourvoyables à partir du moment où les demandeurs d'emploi commencent à craindre des sanctions pour leurs allocations. Mais des emplois de mauvaise qualité, il n'y en a pas assez. On peut défendre le contrôle des chômeurs, mais pour de toute autre raison que la fluidification et la flexibilité du marché du travail, car le marché du travail est déjà très fluide et les chômeurs subissent une très grande partie de cette fluidité.
Rien de positif à prendre dans le contrôle des chômeurs, vraiment. Eh bien, François Fontaine de la Paris School of Economics a beaucoup étudié la question et il a un avis bien moins tranché.
Oui, quand quelqu'un est contrôlé et sanctionné, en général, il va sortir du chômage plus rapidement.
Ça, il y a des chiffres qui l'attestent.
Oui, il y a des expériences étrangères. Il y a notamment une étude assez détaillée et assez fine sur la Suisse qui montre que de manière plus générale, quand vous êtes dans un endroit où vous savez que la menace de contrôle est plus forte, vous avez tendance à quitter le chômage plus rapidement. Par contre, pour que le contrôle ait des effets réellement bénéfiques, il faut qu'il soit joint à de l'accompagnement. Je pense que la manière dont on organise les choses en France avec d'un côté des brigades de contrôle et puis de l'autre des conseillers, je suis pas sûr que ce soit la bonne manière de faire les choses. C'est-à-dire que je pense qu'ils pourraient faire du conseil en même temps que du contrôle. Et je pense que c'est ça la bonne manière de faire les choses. Autrement, effectivement, les gens vont avoir l'impression d'être stigmatisés. C'est tombé sur moi, voilà, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ne font rien et ça tombe pas sur eux. Et je pense que c'est la manière dont les choses sont organisées qui fait que ça donne ce sentiment-là.
Aujourd'hui, le contrôle des chômeurs, comment, pourquoi, c'était le reportage de Louis Valentin Lopez.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
L'invité du Mag Écho ce samedi 18 novembre, c'est la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Après ce reportage, une question d'abord sur l'assurance chômage. Emmanuel Macron veut l'étendre aux agriculteurs. À la FNSEA, qu'est-ce que vous dites? Plutôt non merci.
Plutôt non merci. Nous sentons qu'il s'agit de faire cotiser plus de monde,
dont les agriculteurs. Or, ce dispositif n'est pas adapté à des gens qui ont des vaches et des champs. Laisser nos vaches et nos champs en chômage un an puis revenir, ça ne nous paraît pas possible. Donc, puis c'est pas la culture des agriculteurs. Payer 4 à 6 % de cotisations sociales en plus, puisque je crois que c'est l'hypothèse qui avait été envisagée pour avoir moins de 1 % d'agriculteurs qui en bénéficieraient, ceux qui arrêtent leur activité, ce n'est pas du tout approprié. Ce serait une charge en plus, sans aucun retour tel qu'on pourrait l'espérer, ou en tout cas tel qu'ils voudraient le présenter.
Christiane Lambert, l'actualité cette semaine, c'est d'abord le dossier des phytosanitaires. Que veulent faire les agriculteurs avec ces produits chimiques controversés, décriés pour certains? Une trentaine d'organisations menées par la FNSEA, votre syndicat, annonce un contrat de solution sur les phytosanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que nous prenons les choses en main. Nous avons besoin des produits phytosanitaires, tout comme on a besoin de médicaments quand on est malade. Mais on sent bien aujourd'hui que la question des pesticides est une question sensible et la demande d'utiliser moins de produits phytosanitaires se fait sentir. Alors nous, nous disons OK, mais on peut pas le faire tout seul. Alors ça veut dire quoi ? Les producteurs de semences doivent chercher plus, nous proposer des semences plus résistantes aux maladies. Les fabricants de matériel agricole doivent nous donner du matériel plus performant pour traiter mieux, pour utiliser moins de phyto et au bon endroit. Des robots mécaniques pour faire le désherbage mécanique au lieu de le faire avec la chimie. C'est aussi le biocontrôle. Aujourd'hui, on est capable de tuer les insectes avec d'autres insectes. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Aujourd'hui, c'est 5%. Il faut passer à 10, 15, 20%, augmenter plus ces méthodes de lutte douce lorsqu'elles existent. Mais ça veut dire qu'il faut les chercher. C'est pas une solution toute seule, c'est la combinaison des solutions des uns et des autres qui va nous permettre d'être plus efficaces pour répondre justement à cette nécessaire réduction d'usage de produits phyto.
À la FNSEA, qu'est-ce que vous avez en tête si on arrive à combiner différentes solutions en termes de baisse d'utilisation des pesticides ?
Il y a déjà un objectif qui a été fixé par M. Le Foll qui est très ambitieux puisque c'est moins 25% d'ici 2020, c'est-à-dire dans 2 ans, et c'est moins 50% d'ici 2025. Donc nous alertons tous les partenaires, aidez-nous, et on pourra ainsi atteindre vraiment cet objectif, voire même le dépasser, on l'inscrit dans le document, on ira plus loin si on a les solutions.
Ce document, il sera prêt quand ? Il sera présenté au gouvernement ?
On a donné 3 mois à chacun des partenaires pour rendre leur copie, parce qu'il faut un petit peu de temps, puis il y a Noël au milieu. Et dès la semaine prochaine, nous avons acté des rendez-vous avec les ministres de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement pour les dire, voilà, on a lancé ce programme de recherche et de solutions, on vient vous le présenter et on est vraiment au travail. Comprenez-nous, donnez-nous le temps et arrêtez les interdictions tous azimuts.
Christiane Lambert, sur le glyphosate, on parle justement de la menace d'interdiction. La France, elle veut sortir, elle veut se donner 3-4 ans maximum pour sortir du glyphosate. Les Européens, eux, ne sont pas d'accord. On l'a bien vu et revu ces derniers mois. Qu'est-ce qui va se passer au final ?
Les Européens se basent sur les études des agences sanitaires qui ont pas dit le même degré de dangerosité. Il y a une agence qui a dit cancérogène, les autres ont dit non cancérogène. Il y a une grosse polémique sur le sujet. On voit bien que le débat est politique aujourd'hui. Il n'est pas scientifique.
Pas seulement. À la MSA, la Mutuelle Sociale des Agriculteurs, on voit bien les maladies professionnelles dues aux pesticides et aux glyphosates.
Vous avez vu le chiffre, il y en a 2%. Donc c'est pas le tiers comme disent certaines ONG. Bref, toujours est-il que le débat est polémique, c'est une vraie pétaudière aujourd'hui et il faut en sortir. Est-ce que ce sera 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ils décideront. Par contre, ce que nous savons et ce que dit l'INRA, c'est qu'en l'état, il n'y a pas de solution équivalente techniquement et économiquement. Et c'est ça que voient les agriculteurs. Est-ce que M. Hulot a dit aux constructeurs automobiles, vous allez tout de suite arrêter les moteurs thermiques ? Non, il a dit horizon 2050. Il a donné un horizon pour que les constructeurs trouvent les solutions. Pour la sortie du glyphosate, il faut aussi donner un délai qui permet au moins d'envisager des solutions.
Mais ça fait 10 ans, Christiane Lambert, qu'il y a des articles de journaux sur la possible toxicité du glyphosate.
C'est très polémique. Et les ONG se battent, c'est normal, c'est leur rôle d'aiguillonner et de militer. Donc nous voulons justement nous poser dans une posture plus positive en disant nous sommes interpellés sur l'ensemble des phytos, pas que celui-là, cherchez plus, trouvez et on mettra en œuvre. Voilà ce que nous disons aussi aux politiques de notre pays et de l'Europe.
À l'Assemblée nationale, les députés viennent de prolonger et de revaloriser le crédit d'impôt pour l'agriculture biologique jusqu'en 2020. Est-ce que c'est une décision importante ?
Oui, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les Français veulent plus de produits bio. 5% de la surface en France est cultivée en agriculture biologique. Il y a aujourd'hui une demande plus importante qu'elle n'a jamais été, avec une augmentation de la demande de 14, 15, 16% par an pour certains produits. Jusqu'à maintenant, nous arrivions à produire suffisamment sans trop importer. On couvre à 76% les besoins en produits produits bio des Français, mais on voit bien que si la demande augmente, il faut qu'on produise plus en bio. L'État avait décidé d'accompagner économiquement les agriculteurs, mais n'a pas budgété suffisamment, vient de supprimer les aides au maintien. Donc, le fait que le crédit d'impôt soit prolongé va rassurer les producteurs bio et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Aujourd'hui, Christiane Lambert, que diriez-vous, comment qualifieriez-vous votre dialogue avec le gouvernement ?
Comme ci, comme ça. Ça dépend des jours et ça dépend des sujets.
Alors sur le glyphosate, oui.
Sur le glyphosate, ça a été compliqué parce que les ministres se sont battus et quand les ministres se chamaillent entre eux, c'est très compliqué d'avoir de l'objectivité. Sur le sujet des prix, nous avons plutôt bien travaillé avec l'ensemble des ministères. Sur le sujet de la compétitivité de l'agriculture, tout le monde ne le voit pas de la même façon. Monsieur Travers est très à l'écoute sur ces sujets-là.
Ministre de l'Agriculture.
Le ministre de l'Agriculture. Par contre, Bercy est assis sur le coffre et a les oreilles fermées, ce qui est problématique, puisque l'agriculture française, on le voit sur l'échiquier européen, décroche de son rôle de leader. Nous avons des handicaps de compétitivité, des normes supérieures, des délais supérieurs, des coûts sociaux supérieurs. Pas seulement la question des salaires, la question de toutes les charges qui environnent le travail de nos salariés. Et tout ceci fait que, par exemple, sur le domaine de la volaille, nous étions pays leader. Aujourd'hui, nous sommes doublés par plein de pays qui savent faire des volailles moins chères. Et le comble, c'est que ces volailles-là arrivent dans les cantines françaises. Donc, les régions subventionnent les cantines pour payer des volailles polonaises. Il y a un problème.
Christiane Lambert, vous disiez, ça dépend des sujets. Le sujet de l'alimentation au juste prix. Je commence par l'exemple du beurre. Est-ce que les rayons de beurre vide dans les supermarchés, c'est parti pour durer ?
Ça ne va pas durer si les distributeurs changent d'attitude. Du beurre, il y en a. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la consommation de plus 5% dans le monde en 2 ans, de plus 2,5% en France depuis 2 ans, parce que les diététiciens ont réhabilité le beurre, et tant mieux. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que comme la demande a augmenté de 5%, le prix s'est mise à augmenter aussi à l'international. Et donc les industriels français qui ont du mal, comme d'habitude, à passer des hausses en grande distribution, trouvaient des prix plus rémunérateurs quand ils vendaient à l'étranger. Pas fou, pour avoir des comptes stables, ils ont orienté leur beurre vers l'étranger. Et les grands distributeurs qui ne voulaient pas payer le juste prix ont été privés de beurre. Mais lorsqu'ils ont passé les hausses de plus 7%, plus 6%, plus 20% pour certains d'entre eux, ils ont retrouvé du beurre. Donc ça montre bien que les grands distributeurs, pour la majorité d'entre eux, sont quand même à toujours tirer les prix vers le bas, quitte à mettre les industriels en difficulté. Mais ça tue l'industrie et ça tue l'agriculture.
Et alors justement, en même temps, cette semaine, alors qu'il se passe encore une fois une guerre des prix, cette fois-ci sur le beurre, vous signez au ministère de l'Agriculture une charte avec les industriels, avec la grande distribution, une charte de bonne conduite. Quel est votre degré d'espérance, Christiane Lambert ?
Je suis une optimiste de combat. J'y crois parce que je sais qu'on va suivre le sujet et qu'on va regarder le comportement de chacun. Nous savons bien que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Mettre autour de la table, tous les distributeurs, tous étaient là. Certains sont venus franco de port, d'autres sont venus un peu reculant, mais ils étaient tous là. Tous les industriels et les représentants des producteurs, et quelque chose de très important, parce que tout le monde dit aujourd'hui, même les distributeurs, la majorité d'entre eux disent, on ne peut pas continuer comme ça. On a trop détruit de valeur, on a cassé un pan économique de notre pays. Donc c'est un sursaut qui est en train de s'opérer. Et en plus, les consommateurs demandent de plus en plus de produits tracés, d'origine, à histoire, une montée en gamme, et sont prêts à mettre quelques centimes en plus si ça revient aux producteurs. Donc c'est cette convergence, c'est cet alignement des planètes que nous allons travailler. La loi qui est annoncée par M. Macron, qui j'espère procédera par ordonnance, doit nous donner des outils, l'encadrement des promotions, l'encadrement du seuil de revente à perte, la contractualisation en remettant les prix en marche avant. Tout ça, c'est des outils, mais dans l'intervalle, on va tenir tête aux distributeurs. S'ils veulent passer des baisses, on sera en face d'eux aussi.
Dernière question, Christiane Lambert. Vous avez vu donc Michel-Édouard Leclerc, dont vous fustigiez, ce sont vos mots, le mépris il y a encore une semaine. C'est symbolique, ça a compté pour vous de le voir signer cette charte ?
Bien sûr, et je l'ai salué. Il est toujours aussi un petit peu insolent quand même. C'est quand même un petit peu un poil à gratter, monsieur Michel-Édouard Leclerc. Mais écoutez, il était là, il est venu, il a signé, il a un rôle majeur puisqu'il est le leader. Cette responsabilité-là, nous la lui avons rappelée aussi. Mais il sait aussi que nous serons devant ses magasins pour aller demander comment il procède et comment ça se passe. Et ce que je vois quand même, c'est que monsieur Leclerc, lui aussi, est très inquiet du changement des modes de distribution. Il voit Amazon arriver, il voit ce qui se passe avec Alibaba, il voit tous ces changements de comportement des consommateurs. Il est inquiet. Mais je pense que dans le dialogue, on va arriver à reconstruire des choses. Je le remercie d'être venu à la table, mais il sait aussi que je suis très exigeante sur le suivi et la façon dont il procédera ensuite.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, la vie au boulot, elle vous arrive parfois dans votre boîte mail par des communiqués de presse. Est-ce une bonne façon de comprendre ce qui se passe dans les entreprises ?
Oui, il y a les infos sérieuses qui alertent sur la précarité des coursiers à vélo ou sur la semaine de l'emploi des personnes handicapées qui se tient en ce moment. Et puis, il y a les communiqués de presse, fake news, les rois de l'accroche, les prophètes des tendances prêtes à envahir les open space. La semaine dernière, on a eu droit au grand retour de la graphologie. Un consultant le jure, pour éviter de se tromper, les DRH et les recruteurs ont de plus en plus recours à la graphologie. Pourquoi ? Combien ? On n'en sait rien. C'est comme la disparition annoncée des bullshit jobs. Vous savez, ces postes qui ne servent à rien. Le texte commence par « S'il reste marginal, le phénomène est plus fort que jamais ». Comme ça, restons prudents. Je sais, vous l'aimez bien celui-là, Alexandra. C'est le Chief Happiness Officer, le responsable du bonheur.
Oui.
Il y en aurait des palanquées dans les entreprises pour nous rendre la vie agréable. Si vous en rencontrez écrivez-nous sur le site d'On n'arrête pas l'écho, on est preneur. Enfin, il y a les communiqués précieux pour l'orientation professionnelle et l'épanouissement personnel. Sachez-le, les femmes préfèrent les geeks aux sportifs et aux bricoleurs. C'est un sondage exclusif, sans rire. 77% des femmes préfèrent une tête bien remplie que des tablettes de chocolat.
Je sens que ça vous libère tout ça. Bon, Sandrine, mais qu'est-ce que ça nous dit sur la vraie vie au boulot ?
Ça nous dit surtout que le verbiage managérial des communicants a pris le pouvoir. Je vous lis ce gros titre. La Martech, socle incontournable d'une stratégie customer-centric. Ah. La Martech, Alexandra, c'est l'ensemble des outils marketing technologiques. Et la Martech a le vent en poupe. Elle galvanise par sa complexité. Ça, petit communiqué, on l'avait bien pigé. Novembre, c'est l'arrivage de communiqués des pompes funèbres, avec un discours là aussi bien marketé. Toujours plus innovant face au deuil, ou encore cette société qui remet de l'humain au cœur des obsèques, des fois qu'on inhumerait des robots. J'en termine par la com des startups, parce que naît bientôt une startup nation et que ces petites boîtes sont très créatives, parfois très sûres d'elles. Voici cette startup française en passe de régler le contrôle des flux migratoires. Dans les nouveaux jobs insolites et ubérisés, Florent et Kevin proposent leur concept d'organisateur de soirée canapé, et la start-up Pomi nous vend son site de rencontres sans photo. Vous pouvez retrouver ces infos et bien d'autres sur internet, sur le Tumblr. Les communiqués de presse à la con, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Sandrine Foulon.